BW. Vue d'Allemagne.
Nina Hagen, icône de la scène artistique de l'Allemagne de l'Est quand le pays était encore coupé en deux, plus tard icône punk de toute l'Allemagne. Sa chanson « Du hast den Farbfilm vergessen » reprise en 2021 par l'orchestre de la Bundeswehr, l'armée allemande. C'était la semaine dernière pour le Grosser Zapfenstreich, la traditionnelle cérémonie d'adieu au chancelier ou la chancelière quand il ou elle quitte son mandat. Angela Merkel avait elle-même choisi cette musique pour sa cérémonie. Elle s'en va donc cette semaine. L'heure est arrivée depuis le temps qu'on vous en parle. Fin de 16 ans de mandat. C'est Olaf Scholz du SPD qui prend la place de chancelier désormais. Les ministres du nouveau gouvernement sont connus, eux aussi. 17 personnes avec le chancelier, un cabinet paritaire, autant d'hommes que de femmes, c'est à souligner. Moins égalitaire tout de même sur l'origine des membres du gouvernement, seuls deux viennent de l'ancienne Allemagne de l'Est. Alors quoi attendre de ce nouveau gouvernement? On ne pourra pas vous faire 17 portraits pour vous présenter les nouveaux ministres dans cette émission de moins d'un quart d'heure. Mais alors que l'Allemagne est aux prises avec une nouvelle vague de Covid-19, on se penche sur le nouveau ministre de la Santé, un docteur, un épidémiologiste au ministère, Karl Lauterbach. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen, soyez les bienvenus. Los geht's, c'est parti. Il a 58 ans, des petites lunettes rondes, les cheveux courts en brosse sur le côté et est connu de tous en Allemagne, habitué des interviews, des plateaux télé, des studios radio depuis le début de la pandémie de Covid-19. Karl Lauterbach est donc le nouveau ministre de la Santé dans la République fédérale. Il prend la succession à ce ministère de Jens Spahn que vous avez souvent entendu sur notre antenne les derniers mois en pleine pandémie de Covid. Karl Lauterbach, ou plutôt le professeur docteur Karl Lauterbach, comme on dit en Allemagne, où on accorde une importance particulière au titre universitaire. Professeur docteur, car Karl Lauterbach connaît bien le domaine de la santé, il y est qualifié, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a étudié la médecine en Allemagne, aux États-Unis, il fut professeur d'université à Cologne en Allemagne, directeur d'un institut de santé aussi. Dès 1999, dans le Conseil des experts allemands pour l'évolution du système de santé dans le pays également. En 2001, Karl Lauterbach adhère au SPD, les sociodémocrates, alors même qu'il avait été membre de la CDU de l'autre côté de l'échiquier politique. Dès 2005, il est candidat au Bundestag, il est élu député et n'a jamais quitté son poste depuis, réélu à chaque élection dans sa circonscription. Mais ce qu'il a fait connaître dans tout le pays, de tous, c'est donc la pandémie de Covid-19.
Und in Köln begrüße ich den SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach.
Bei mir ist jetzt Karl Lauterbach, der SPD-Gesundheitsexperte.
Und Professor Karl Lauterbach, einen schönen guten Morgen, Herr Professor. Ich grüße Sie ganz herzlich.
SPD-Gesundheitsexperte Professor Karl Lauterbach.
Ja, einen schönen guten Abend, Herr Lauterbach.
Karl Lauterbach, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Augustin.
Matin, midi et soir, Karl Lauterbach est invité à la télé, à la radio, interrogé de toutes parts pour expliquer, décrypter la pandémie, donner son avis, ses conseils, ses mises en garde. À tel point qu'avant même que le SPD décide de le nommer, certains avaient déjà lancé des appels en ligne, des hashtags sur les réseaux sociaux pour que ce soit lui qui prenne la place de ministre. Un homme réputé dur, excentrique, mais compétent dans son domaine. Alors sa nomination va-t-elle changer quelque chose dans la gestion de cette pandémie? Eh bien certainement, estimé en début de semaine chez nos confrères de la télé publique allemande, le politologue Thorsten Faas.
Oui, on peut le supposer, car il y a des modèles différents. Jens Spahn n'était pas un expert en matière de politique de la santé et n'a pas toujours fait preuve d'une grande compétence dans ce domaine. Un ministre ne doit pas forcément l'être, mais dans le cas de Karl Lauterbach, nous avons vraiment à la tête du ministère un expert reconnu, un épidémiologiste. Nous verrons donc certainement dans l'exercice de son mandat qui sera plus proche de la science et qui s'engagera davantage dans ces domaines. C'est donc déjà un net changement d'accent que l'on a vu ici et que tout le monde n'attendait pas forcément.
En cette période de pandémie, le nouveau chancelier Olaf Scholz n'avait pas le choix que d'un profil comme celui-ci au gouvernement et ne pouvait pas ignorer la popularité du nouveau ministre. Il l'a dit assez clairement d'ailleurs en annonçant son nom à la tête du ministère de la Santé.
Et pour moi, c'est très important Pour moi, il est très important que nous gardions à l'esprit que la pandémie est loin d'être terminée. C'est pourquoi je suis sûr que la plupart des gens dans ce pays voulaient certainement que le prochain ministre de la Santé soit un expert qui sait vraiment comment bien faire les choses et que son nom soit Karl Lauterbach. Ce sera donc lui.
Un homme qui a souvent demandé des mesures de restriction plus fortes les derniers mois pendant la pandémie, ce qui lui a valu la haine aussi des anti-restrictions ou des anti-vaccins et des menaces même. Mais pas de quoi le décourager aujourd'hui, bien au contraire.
Nous devons combattre cette pandémie. La pandémie durera plus longtemps que beaucoup ne le pensent, mais nous y parviendrons. La vaccination jouera un rôle central, mais il ne sera pas le seul. Et en plus de cela, nous allons renforcer le système de santé.
Un système de santé mis à rude épreuve en Allemagne comme partout ces derniers mois, mais aussi avec des problèmes structurels bien au-delà de la pandémie. Des travailleurs qui se sentent mal payés, un système de soins avec des caisses d'assurance publique, d'autres privées, considérées par beaucoup comme inégalitaires, et un système qui manque cruellement de personnel. On parle de 500 000 travailleurs qui vont manquer d'ici 2030. Par le passé, Karl Lauterbach disait qu'il fallait fermer des hôpitaux pour réorganiser mieux le système. Aujourd'hui, plus question de cela. Visiblement, le ministre promet tous les efforts du gouvernement pour ce secteur vital.
Avec nous, il n'y aura pas de réduction des prestations dans le système de santé. Bien au contraire, nous allons rendre le système à nouveau plus robuste. Nous sommes fiers d'avoir un bon système de santé. Nous en aurons besoin. Nous gagnerons la bataille contre la pandémie et nous serons mieux armés pour les autres pandémies que nous ne l'avons été pour celle-ci.
Et des premières promesses qui restent à concrétiser. Les attentes sont grandes, évidemment, dans les infrastructures de santé pour les personnels à bout de souffle, souvent après des mois de pandémie. En attendant, la nomination du ministre est plutôt bien reçue dans le milieu politique, même dans le camp de la CDU, désormais dans l'opposition. Certains ont salué publiquement la prise de poste de Karl Lauterbach. Il a promis aux Allemands de tout faire déjà d'ici Noël pour que la fête puisse être un moment de retrouvailles en famille et que les Allemands et Allemandes puissent voyager dans le pays sans danger à ce moment-là. La version originale du titre de Nina Hagen que vous entendiez au début de cette émission, repris par la Bundeswehr, titre Schlager, la musique populaire allemande de 1974, alors hit en RDA, l'Allemagne de l'Est. D'Allemagne. Deuxième partie, reportage international. On part au Japon à la découverte de l'indigo, une teinture naturelle, artisanale, comme en Afrique de l'Ouest. La teinture à l'indigo, l'or bleu du Japon, est une tradition que tentent de préserver les cultivateurs et les maîtres teinturiers de Tokushima, l'une des grandes régions productrices japonaises, située à Shikoku, la plus petite des quatre îles principales de l'archipel. Alors pour conserver son patrimoine, la région mise aujourd'hui sur une vertu méconnue de cette plante, une plante pleine de ressources et étonnante, vous allez l'entendre. Reportage signé Amy Elio.
Okay. L'hiver s'installe à Tokushima et pourtant une agréable chaleur émane des feuilles d'indigo qui tapissent le sol du hangar de Monsieur Ni. Récoltées et séchées cet été, les voici qu'elles fermentent. Pour éviter que le froid ne vienne altérer le processus, le cultivateur s'empresse de recouvrir de larges nattes les petites montagnes violacées.
Aigami-san, hakko ya kara, kami ga yodotto.
Une prière pour s'assurer la faveur des dieux, puis la porte se referme. Dans quelques mois, le sukumo sera prêt, ce précieux compost que les teinturiers utilisent pour fabriquer l'indigo, le fameux bleu japonais, la couleur des samouraïs. À Tokushima, au lieu historique de la production japonaise, Monsieur Ni perpétue un savoir-faire ancestral.
Je fais ce travail depuis 50 ans. Je représente la sixième génération et mon fils et mon petit-fils travaillent aussi avec moi. C'est une affaire familiale et j'en suis heureux, car c'est ma mission de transmettre cette tradition.
Ils ne sont plus que 5 dans la région à maintenir la tradition. Concurrence de la teinture chimique, vieillissement de la population, les champs d'indigotiers se rétrécissent et les ateliers de teinture ferment tour à tour. Penché sur la cuve, Toshiharu Furusho plonge de fines étoffes dans un épais bain bleu nuit. Lorsqu'il découvre le métier il y a plus de 40 ans, les colorants chimiques sont alors en plein essor, mais lui décide de renouer avec les techniques anciennes, fasciné par le pouvoir de l'indigo qui marque jusque les lignes de ses mains.
Ce que je trouve intéressant avec l'indigo, c'est qu'une fois le produit fini, une fois qu'il est teinté à l'indigo, sa couleur va tout de même continuer à changer et à évoluer. Cela va dépendre de la manière dont le client va l'utiliser.
Sa fille Michiko prendra plus tard la relève, mais le visage du maître s'assombrit lorsqu'il évoque l'avenir. L'indigo est devenu une denrée rare.
La production ne cesse de diminuer. Je suis allé voir la préfecture de Tokushima pour leur demander de faire quelque chose.
Pour préserver son patrimoine, Tokushima compte désormais sur une autre vertu du végétal. On connaît souvent ses propriétés antiseptiques et anti-moustiques. Ce qu'on sait moins, c'est que les feuilles d'indigo sont comestibles et qu'elles posséderaient d'intéressantes propriétés nutritionnelles. Dans les bureaux de l'entreprise Bonhomme, on boit un thé aux couleurs des flots. Pharmacien de formation, Yoshihiro Mitani s'est lancé dans la production d'aliments à base d'indigo après avoir découvert que la plante était autrefois utilisée comme médicament.
Bien avant la chimie, on sait grâce à des textes chinois anciens qui datent de plus de 3500 ans que l'indigo était autrefois consommé pour ses propriétés détoxifiantes et pour soigner la fièvre.
Les travaux qu'il mène avec une université prouvent ses effets anti-inflammatoires et antioxydants. Ses feuilles sont riches en polyphénol. Dans des biscuits, du thé ou sous forme de poudre, l'aliment au super pouvoir pourrait, selon lui, contribuer à redynamiser le secteur dans la région.
Si nous utilisons l'indigo uniquement comme teinture, il sera difficile d'augmenter sa production qui a beaucoup diminué. Je ne crois pas que la teinture à l'indigo puisse retrouver la popularité qu'elle a connue par le passé. Mais je pense que si on cultive l'indigo dans le but d'en faire des produits alimentaires ou pour ses propriétés médicinales, alors la production se développera.
Plusieurs tables de Tokushima ont adopté le végétal, reste à passer outre un tabou, parce qu'il est rare au naturel, l'aliment bleu a tendance à surprendre, peut-être plus pour longtemps. Emilio à Tokushima pour la Deutsche Welle.
Emilio à Tokushima pour la Deutsche Welle. Emi Kon, merci pour ce sujet et ses efforts pour tourner tout cela pour vous. Ça n'a pas été simple avec la pandémie. Merci aussi cette semaine à Sabine Kinkatz de la DW pour ses recherches sur Karl Lauterbach. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Prochain numéro de Vue d'Allemagne la semaine prochaine et en podcast d'ici là toujours. Bis bald, à très bientôt, tschüss.